Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touchdown Actu numéro 375, Raoul Villeroy. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de NFL. Et aujourd'hui, je suis avec Alain Mattei. Salut Alain.
Bonjour Raoul.
Alain qui aujourd'hui a la double casquette, chroniqueur et ingénieur son. Donc bravo.
J'ai l'impression de marcher sur une corde raide, tu peux pas savoir.
Oh, ça va, tu vas y arriver, c'est pas comme si tu connaissais pas. Vous le connaissez vous aussi, le format du jeudi, c'est le débat, l'affiche de la semaine, des pronos et vos questions. Pour le débat du jour, on va parler d'actualité et de la date limite pour les échanges, qui est parti où, les gagnants, les perdants, tout ce que vous voulez. Et pour l'affiche du jour, on a une belle rivalité de NFC Sud entre les Saints et les Buccaneers. Alain, est-ce que tu es prêt?
Oui, je suis prêt, mais j'ai la pression parce que je viens de penser, t'as dit à la fois chroniqueur et ingénieur du son, ça veut dire qu'on me compare à la fois à Raphaël et Greg d'un côté et à Camille de l'autre, quoi.
Bah ouais, mais y a que toi qui sais faire ça sur ton jeu de l'actu, les deux en même temps.
Pression totale.
Mais arrête, tu vas y arriver très bien.
Du coup, c'est moi qui lance le jingle.
Oui, je n'attends que ça. Alors. Je suis prêt.
Salut, c'est Laurent du Journée Tardif en direct de Miami et vous écoutez Touchdown Actu.
La douceur dans ce monde de brut que je
Ah, ça c'est incroyable, bravo, bravo. Laurent Duvernay Tardif qui fera, j'espère, un retour l'an prochain en NFL, mais qui, en attendant, vous le savez, est parti profiter de ses études de médecine pour aider à lutter contre le Covid. La trade deadline, Alain, la date limite des échanges, ça se terminait mardi à 22h heure française. Elle est terminée depuis, les élections présidentielles ne le sont pas. On va pouvoir faire donc un point sur le premier sujet plutôt. Alors d'abord, c'est moi où on a vu beaucoup d'échanges défensifs surtout. Est-ce que c'est parce que les défenses ont été un peu mises à mal depuis le début de saison? On essaie de s'ajuster là-dessus?
Alors c'est vrai que je ne l'avais pas vu sous cet angle-là. Je n'avais pas remarqué, mais en effet c'est beaucoup plus défensif parce que Yannick Ngakoue, Carlos Dunlap, Desmond King, Quan Alexander qui sont plus ou moins les principaux échanges.
Avery Williamson aussi chez les Steelers.
Avery Williamson, c'est vrai. Moi je t'avoue que je l'avais vu sous un angle un peu différent qui était c'est à peu près tout le temps un faible qui renforce un fort.
Oui, bah, c'est parce qu'un faible, souvent, espère retirer un draft pick intéressant et se reconstruire sur, là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, ils pensent que... Alors, la saison n'est jamais terminée, le tanking n'existe pas très bien, mais aujourd'hui, c'est compliqué pour eux. Moi, je pense que c'est comme ça que je le vois, en tout cas.
Oui, oui, non, mais clairement, c'est le but, mais j'avais pas l'impression... Enfin, j'ai l'impression que ce phénomène-là, pour le coup, il prend... plus en plus d'ampleur, sans que ce soit des énormes échanges. Tu vois, il n'y a pas des, y a pas un Stephen Gilmore qui est parti ou des énormes gars comme ça. Mais c'est vraiment devenu une tendance lourde de fond, je trouve, de dire les faibles se débarrassent. Alors, je vais pas dire tanking parce que je déteste ce mot et que c'est pas du tout l'ambiance. Mais il est devenu clair, en tout cas, qu'on n'a plus peur de reconstruire et de dire ce contrat-là est trop lourd ou ce contrat-là est trop court ou les deux en même temps. On va s'en débarrasser, essayer de récupérer un mec qui sera un peu moins cher. Encore une fois, c'est pas du tanking parce qu'il y a des équipes qui l'ont fait et qui cherchent pas forcément un quarterback, par exemple. Les Chargers, je pense à eux, qui se sont débarrassés de Desmond King. Les Seahawks ont récupéré Dunlap alors qu'ils ont Joe Burrow, par exemple, du côté de Cincinnati. Donc voilà, c'est vraiment juste de dire on n'a plus besoin de ces gros contrats-là ou ces joueurs en fin de carrière-là, et puis on les redonne. Moi, c'est plus cette tendance-là qu'on a vue. Après, ça permet de faire des bonnes affaires un peu pour tout le monde, parce qu'au final, tous les prétendants ou presque ont été servis, quoi.
Oui, et du coup, c'est peut-être ça aussi que se disent les grosses équipes qui récupèrent des joueurs avec des gros contrats, c'est qu'en fait, quitte à tout mettre sur une année où il y a moyen, et ben voilà, tu prends un mec un peu expérimenté, enfin souvent c'est le cas quand ils ont des gros contrats comme ça, et t'essayes de voir s'il peut pas avoir un impact direct sur ton équipe là où les autres qui misent, on le disait sur les choix de draft, ben c'est peut-être un peu plus à long terme, quoi.
Oui, non, mais c'est ça, on est complètement là-dedans. Après, pour rentrer peut-être un peu dans le détail, donc on disait que tous les prétendants ont été servis, j'arrive pas, enfin il n'y a pas non plus de game changer, enfin de mecs qui vont changer tout.
Il n'y a pas une énorme star, en fait.
C'est ça.
Il y a des très bons joueurs, il y a des joueurs de haut niveau, ce que vous voulez, mais il n'y a pas c'est pas un échange type celui qu'on a eu entre les Cardinals et les Texans pour DeAndre Hopkins. Voilà. C'est ça,
oui, bon, après, Bill O'Brien n'est plus là. Hein.
En plus, peut-être que ça enlève un peu de grain de folie dans ces échanges, mais le fait est que, effectivement, je te rejoins, on peut peut-être aussi commencer là-dessus, c'est que. Il n'y a pas eu de giga star. Aujourd'hui, tu dirais, c'est quoi l'échange le plus fort? Yannick Ngakoue?
Bah, oui, enfin, je pense que c'est Ngakoue par le profil du joueur. C'est-à-dire qu'il a toujours que 25 ans, c'est un pass rusher de qualité, il a 5 sacks cette saison. Donc là-dessus, c'est le meilleur joueur, je pense, qui a bougé. Encore une fois, par toute cette combinaison-là, il faudra réussir à le re-signer parce qu'il est en fin de contrat, justement. C'est aussi ce qui a fait que. Enfin, il est sur le franchise tag. C'est ce qui a fait que Minnesota s'en est débarrassé. Mais voilà, c'est vraiment une drôle de situation, d'ailleurs, parce qu'il était arrivé à Minnesota pendant l'intersaison et puis il repart directement là parce que ça a pas marché, donc on est vraiment dans cette optique de je joue le titre sinon je me débarrasse. Si ça avait tourné dans l'autre sens et que les Ravens étaient à 6-2 ou quelque chose comme ça, c'est peut-être eux qui auraient récupéré un autre joueur ailleurs, et là finalement c'est eux qui se débarrassent de Yannick Ngakoue. Mais oui, je pense que c'est le plus intéressant du fait que, un, le joueur est probablement le plus fort qui a bougé, et deuxièmement, il renforce une équipe qui était peut-être celle dans toutes celles qu'on fait des échanges qu'on avait le moins besoin. C'est-à-dire que en termes de pass rush, de qualité défensive, les Ravens sont déjà un ou deux, je crois, sur les points autorisés, ou enfin ils sont très très hauts dans tous les domaines statistiques défensifs. Ngakoue vient renforcer une qualité déjà. Du côté, par exemple, des Seahawks, je me permets d'enchaîner, mais si par exemple tu regardes Carlos Dunlap qui arrive, c'est plus un pari. Il a 31 ans, ça fait 6 ans de plus, il a qu'une seule saison à 10 sacs dans sa carrière, donc il a en plus un cran en dessous. Et ils sont tellement, eux, en difficulté en défense que c'est un pari et il faut que ça marche, que ça s'intègre dans un tout. C'est-à-dire qu'il y aura aussi le retour de Jamal Adams, il y aura aussi d'autres trucs qui doivent faire que ça finisse par marcher. Mais c'est plus des petits paris comme ça, que ce soit Dunlap, King ou d'autres.
Est-ce que c'est vraiment un énorme risque pour les Seahawks? Même pas forcément, je trouve, parce que quand bien même l'impact n'est pas énorme, enfin, même si l'impact n'est pas énorme de Carlos Dunlap, à mon avis, ça coûte rien, ça coûte 4 millions, je crois, quelque chose comme ça. Je regardais son salaire, ça doit être à peu près ça. L'an prochain, il est censé avoir 10 millions. Bon, ok, ça coûte 10 millions, mais ta défense est tellement à la rue que tu peux presque te les permettre, quoi.
Ah oui, non, et puis il a déjà réduit son salaire, ils lui ont filé un bonus à la signature, on l'a mis dans le petit-déj de ce matin. En plus, tu fais venir des mecs comme ça, comme un Dunlap qui a jamais joué le titre quasiment, bon, il est content, il va jouer le titre. Oui. Il baisse un peu son salaire ou il prend un bonus à la signature. Non, c'est vraiment, je trouve, la caractéristique de cette trade deadline, c'est que c'est que des petits risques. C'est-à-dire que Dunlap, je sais plus contre quelle contrepartie, je l'ai pas noté, mais
je l'avais sous les yeux il y a une seconde contre BJ Finney, le centre et un choix du 7e tour de l'an prochain.
Oui, voilà. En plus, il se débarrasse d'un gros contrat d'un lineman remplaçant. Desmond King pour les Titans, par exemple, c'est un 6e tour. C'est vraiment la même chose, quoi. Ils avaient besoin de couverture aérienne. Il est bon dans le slot. Il tente. Les Saints. Pareil, Quan Alexander, Alonso et un 5e tour. Bon, bah, c'est un bon pari, quoi. Alonso, c'est quand même un joueur assez limité. Là, t'as un mec qui est meilleur, mais qui est irrégulier depuis qu'il a signé un gros contrat, qui a eu des blessures. Mais sur le papier, tu peux avoir un bon duo avec DeMario Davis. Donc, c'est vraiment des bons paris. Même chose, encore une fois, avec Williamson, Avery Williamson qui arrive aux Steelers. Ils ont la blessure de Devin Bush. Et bah, ils récupèrent un serial plaqueur, un mec polyvalent qui peut le remplacer. Je pense que voilà, ceux-là, c'est vraiment les principaux. Williamson, King, Dunlap et Alexander, c'est un peu vraiment tous sur la même philosophie de « on joue le titre maintenant, on avait un petit besoin, on le tente avec un de ces petits paris-là, on a un effectif fort, des bons coachs, on va intégrer ça. » Et normalement, ça fait une bonne rustine pour la fin de l'année, voire plus, quoi.
Oui, et justement, cet échange entre les Saints et les Niners, c'est limite du poste pour poste, parce que c'est deux linebackers, Alexander qui part chez les Saints et Alonso qui part chez les Niners. Ça a l'air étonnant vu de l'extérieur, mais il peut y avoir plus que du sportif.
Oh non, je pense pas. Non, mais franchement, Alexandre, enfin côté Saints, c'est cohérent, quoi. Alonso, ça reste quand même un joueur. Il a fait quelques trucs, il était visible à un moment, mais ça reste quand même pas un super linebacker. Voilà, ça remonte. Il est passé par Buffalo. Je crois que c'était surtout au début à Buffalo qui s'était fait une petite cote, mais depuis, c'est quand même pas fameux. Donc non, tu perds rien à faire venir un Quan Alexander qui a joué à un bien meilleur niveau à un moment que Kiko Alonso. Encore une fois, pour moi, tous ces trucs-là se tiennent un peu sur le même mode. Vraiment, voilà. Et après, parce que même les deux autres, hein, moi, dans les échanges principaux, j'en avais deux offensifs, qui étaient Isaiah Ford du côté des Patriots, le receveur, et DeAndre Washington, le coureur qui arrive à Miami.
Au dernier moment, ces deux-là. Hein, ça a été les deux derniers de la. Ça devait être
mardi, je crois, d'ailleurs.
C'est le jour même. Ouais, c'est le jour même. Donc, voilà, mais c'est vraiment la même chose. Les Patriots ont un besoin. Alors, c'est un euphémisme, hein. Déjà, ils ont un besoin au poste de receveur. Ça fait depuis 2010 quasiment. Mais voilà, bon, bah, ils prennent un mec qui a 18 réceptions cette année, qui est jeune, ils ont rien à perdre dessus. Pourquoi pas? Et puis, pareil pour Miami, ils ont besoin de coureurs pour aider Tua Tagovailoa pour ses débuts. Bon, bah, ils prennent un DeAndre Washington. Ça leur coûte quasiment que dalle, hein.
Et puis, Kansas City peut s'en passer. Ils en ont des coureurs.
Oui, non, mais c'est ça. Donc, vraiment, voilà, c'est une petite deadline. On n'est pas oublié. Franchement, on va pas épiloguer 10 ans non plus. Hein. On l'a mis en thème de la semaine parce que. Mais c'est une petite deadline. De toute façon, j'ai l'impression que ces dernières années, on essayait beaucoup d'en faire. La NFL essayait de faire grimper un peu la hype les jours précédents, un peu façon NBA. Quoi. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est pas toujours à la hauteur en NBA. Ça l'est encore moins en NFL. C'est plus dur de bouger en NFL de toute façon. Tu rajoutes la Covid, tu rajoutes plein de trucs. Bon, voilà. Honnêtement, après, les deals les plus intéressants, c'est ceux qui n'ont pas eu lieu, comme d'habitude, quoi.
Stéphane Gilmore n'est pas parti.
C'est ça.
On attendait peut-être aussi une des arrivées du côté de Green Bay. On attendait peut-être du mouvement chez les Texans aussi, qui, bah voilà, dans une année où ça va être compliqué pour eux, auraient peut-être pu gagner des trucs.
Ouais, mais tu vois, regarde, Green Bay, je sais même pas si c'était nécessaire. On a beaucoup parlé de Will Fuller, de receveurs, etc. Est-ce que c'est vraiment sur les receveurs qu'ils avaient besoin? Alors oui, ce serait mieux d'avoir plus de monde, etc. Mais Devante Adams, Saint Brown, enfin ils se sont bien débrouillés. Ce serait surtout bien de renforcer la défense, notamment contre le sol, après ce qu'ils ont pris la semaine dernière. Donc je suis même pas persuadé. Voilà, Gilmore, bon, c'est sûr, il a un an de la fin de son contrat, il pourrait prendre un gros chèque ailleurs. Mais c'est quand même le défenseur de l'année en titre, il aurait fallu une grosse contrepartie.
Oui.
Et puis voilà, bon, il y a Houston, ils auraient pu, on parlait de Will Fuller, ils auraient pu en effet faire ce qu'on disait, reconstruire. J.J. Watt, il est à l'agonie.
Mais il veut pas reconstruire, il a dit. Hein.
Oui, ben voilà, mais du coup, il faudrait qu'il aille ailleurs, mais visiblement, ils n'ont pas l'air de vouloir. Et le problème de ces équipes-là, parfois, c'est qu'elles deviennent un peu gourmandes aussi, parce que la rumeur, c'est qu'ils voulaient un choix du second tour pour Will Fuller. Très bien, mais quand tu vois ce qui sort à la draft au deuxième tour ces dernières années, est-ce que t'as vraiment besoin d'un Will Fuller qui est blessé tous les 4 matins, quoi?
Pas sûr.
Donc voilà, donc c'est beaucoup de rumeurs, beaucoup de... Voilà. Mais Houston aurait pu reconstruire Stephon Gilmore. Dwayne Haskins, bon, Ron Rivera lui maintient sa confiance. Il a expliqué dans une interview que oui, il l'a mis sur le banc, mais il pense pas que son avenir soit terminé à Washington et qu'il a un bon bras, etc. Bon, est-ce que justement ils essaient de leur monter un peu la confiance parce qu'ils n'ont pas échangé, ça c'est autre chose.
Ou alors il attend que le climat économique soit plus sain et qu'ils puissent en tirer un meilleur parti.
Peut-être, ouais. Mais bon, voilà. Au final, c'est souvent beaucoup de buzz pour pas grand-chose. Là, on a eu des échanges pas flashy mais intelligents. Ouais. On retiendrait ça.
Voilà, j'allais conclure comme ça. Pas grand-chose mais intelligent. Il y en a un qu'on n'a pas mentionné, mais je vais juste le dire comme ça, c'est fait. Everson Griffin qui est parti du côté de Détroit. Voilà, pareil, Dallas n'a pas grand-chose de toute façon à jouer cette année. Donc, bon, pourquoi pas.
C'est vrai, mais est-ce que Détroit a grand-chose à jouer?
En tout cas, Détroit, pareil, hein, perd pas grand-chose à faire venir un défenseur.
C'est vrai.
Et bien voilà pour le petit point sur la date limite des échanges en NFL et nous on passe à la fiche de la semaine. J'ai bugué sur semaine parce que je voulais dire 8 ou 9, je savais plus, mais c'est la 9 évidemment.
9.
L'affiche c'est les Buccaneers à 6 victoires et 2 défaites, chez les Saints à 5 victoires et 2 défaites. Une opposition qui depuis quelques années tourne quand même plutôt en faveur des Saints, sauf que voilà, pour la première fois en 4 matchs je crois, parce que les 4 derniers matchs c'est les victoires des Saints. L'équipe des Bucks n'a plus rien à voir. Tom Brady est arrivé, plus besoin de vous le redire. Il y a une énorme défense, il y a une grosse attaque. Est-ce que ça peut déjà perturber un peu les Saints de se dire que l'adversaire qu'ils ont l'habitude de martyriser cette année risque de leur faire du mal?
Alors ils ont déjà battu hein, cette année. C'était le premier match de la saison pour les Saints.
Pourquoi la NFL me donne des mauvaises stats?
Deux interceptions de Brady dont un pick six dans le premier match. C'était la toute première semaine. Brise
avait
fait
oui,
c'est ça. Tout petit match. Ça a changé quand même depuis déjà de toute façon. C'est-à-dire que les Saints de toute façon avaient bien commencé contre Tampa, mais depuis Tampa c'est quand même affûté, c'est quand même plus fort. Moi je suis impatient honnêtement. S'il y a un match-up qui m'intéresse d'emblée, c'est la défense des Saints contre l'attaque des Buccaneers.
Ah ouais, j'aurais limite dit l'inverse moi.
Parce que ça me semble être celui qui présente le plus d'inconnus. On a les possibles retours de Michael Thomas et d'Emmanuel Sanders.
Il serait temps.
Voilà, Michael Thomas s'est entraîné mercredi, il est éloigné des terrains à cause de sa cheville depuis un moment. Emmanuel Sanders, c'était le Covid la semaine dernière. A priori, il s'entraîne. Donc déjà, ce serait une première bonne nouvelle. Et puis les Buccaneers ont la meilleure défense au sol. Statistiquement, ils encaissent environ 70 yards par match. Donc, si t'as Thomas et Sanders pour enfin aider Alvin Kamara, je trouve que t'as quand même quelque chose d'intéressant. Et encore une fois, cette attaque des Saints, malgré les absences en cascade en attaque, où il manquait quand même ses trois premiers receveurs à Drew Brees la semaine dernière, ils sont sur 4 victoires de suite, donc ils se débrouillent bien malgré tout ça.
Oui, et ils mettent quasiment 30 points de moyenne par match. Donc,
c'est ça, ils sont toujours top 15, hein, je crois, sur les yards gagnés. Enfin, ils sont toujours bien. Malgré, pourtant, on dit Drew Brees il est moins fort, on dit il manque des cibles, etc., etc. Pourtant, cette attaque, elle se maintient dans le top 15, et là, elle récupère deux de ses premières cibles. Donc, moi, j'aurais tendance, tu vois, à être plutôt impatient de voir comment ça va s'organiser.
Pour le coup, Drew Brees, je regardais, par rapport à ses années précédentes, à mi-saison, il est en dessous de ses moyennes, quand même, hein, en termes de yards lancés, en termes de touchdowns. Donc bon, évidemment on est qu'à mi-saison, hein, mais je trouve qu'on voit et qu'on ressent et qu'on lit une baisse statistique, ce qui est normal, peut-être parce qu'il lui manquait ses cibles aussi. Maintenant, je trouve ça un peu facile d'écarter rapidement ça en disant oui, il lui manque du monde, blablabla, parce que quand même, il arrive à l'âge qu'il a et il y a un moment où ça finit par payer, tout le monde n'est pas Tom Brady, donc...
C'est l'attaque d'Alvin Kamara aujourd'hui.
Oui.
C'est l'attaque d'Alvin Kamara. D'ailleurs, stat délirante, hein, 55 réceptions. Kamara, il est deuxième en NFL derrière Hopkins. Il est devant tous les autres receveurs en nombre de réceptions.
C'est absurde.
Donc, c'est l'attaque d'Alvin Kamara. Moi, encore une fois, oui, Drew Brees baisse en performance, mais tu l'as dit, c'est hyper normal. Mais ça reste quand même un mec qui a de l'expérience et ça pourra compter. Mais,
oui,
mais encore une fois, Drew Brees fait partie de ces inconnus que j'ai envie de voir à l'œuvre. C'est-à-dire que quand je te dis qu'il y a ces receveurs qui reviennent, c'est parce que j'ai aussi envie de voir ce que Drew Brees va en faire. J'ai envie de voir comment ils vont se débrouiller face à cette bonne défense de Tampa.
Et tu vois, à l'inverse, on dit il baisse en niveau ce que tu veux, machin. Mais aujourd'hui, il est très très loin d'être un quarterback que je mets dans la catégorie il te fait perdre un match. Il faut pas exagérer. Il a moins la capacité de le gagner qu'avant, peut-être, ça reste relatif. Mais pour autant, il te le fera pas perdre. Donc ça, on n'est pas encore complètement inquiet là-dessus. Tu vois, c'est marrant parce que moi, c'était plutôt le match-up inverse qui m'aurait fait rigoler, en l'occurrence, de voir comment cette attaque de attends, que du coup tu m'as perdu.
De Tampa.
De Tampa, oui, voilà. Qu'est-ce qu'elle allait faire, surtout avec éventuellement l'arrivée de notre ami Antonio Brown.
C'est vrai que c'est l'événement. Ils sont, mais alors Antonio Brown, il, c'est plus le même. Tu sais, il est gentil, il a une conférence
pour
de presse,
fois,
il était heureux. Il avait une belle casquette avec le TB de Tom Brady pour sa première conférence de presse.
Il
a été, ouais, je crois qu'il a été adopté. Hein. Alors c'est intéressant, clairement. Je sais pas si c'est la première histoire du match, mais clairement, c'est intéressant. Ils sont quatrième sur les points marqués, donc c'est déjà une bonne attaque. Ils sont sur 3 victoires de suite. Les Giants, ils ont eu du mal, mais pour moi, bon, c'est un accro, ça arrive. Il y a des matchs plus embêtants que d'autres.
C'est les fantômes de Brady, les maillots des Giants.
C'est ça. Et puis là, je veux dire, ils jouent les Saints. C'est un match de division. C'est important pour eux. Ils ont perdu le premier, donc c'est encore plus important dans la course à la division. Et pour moi, le théorème reste toujours un peu le même. C'est que si Brady est tranquille, il va bosser. Donc il a Evans, il a, du coup j'ai un doute sur la disponibilité de Chris Godwin parce qu'il a été pas mal blessé, je crois pas qu'il soit encore là, mais Antonio Brown va être là, Rob Gronkowski est là, donc pour moi la question c'est vraiment ça. On a deux équipes qui sont très fortes sur la ligne offensive, les Saints ont encaissé que 9 sacks cette année, les Buccaneers ont encaissé que 10 sacks, ils sont tous les deux dans le top 10. Après la différence c'est que le pass rush des Buccaneers met plus de pression.
Voilà.
On parlait de cette opposition là tout à l'heure. Drew Brees devrait avoir plus de pression sur lui. Les Saints, eux, ont un peu plus de mal à mettre la pression. Ils sont au milieu de tableau, hein, grosso modo. Mais voilà, on va dire que le pass rush des Saints a la pression de devoir mettre la pression. Si je peux dire comme
ouais,
ça.
Ouais, ouais, et c'est marrant ce que j'allais te dire. Trey Hendrickson est peut-être un peu l'arbre qui cache la forêt du pass rush du côté des Saints. En l'occurrence, lui, il a 5 sacs et demi, ce qui n'est pas honteux à ce niveau-là de la saison. Mais derrière, il est un peu seul, là où, à l'inverse, les Buccaneers ont vraiment un groupe qui est capable d'aller embêter Drew Brees. C'est une belle expression, une belle formule, la pression de mettre la pression. Ça va être,
bah oui, oui, c'est comme l'envie d'avoir envie. Je n'y ai plus là pour la chanter, alors je ne sais pas à qui la vendre. Mais... Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est que les Saints ont une dizaine de sacs de moins que les Buccaneers sur la saison, donc ça montre vraiment un petit peu la différence de challenge pour les deux. Après sur un match on sait très bien que la ligne des Saints peut tenir et que Drew Brees se débarrasse vite du ballon et que Sean Payton pourra planifier pour ça, mais encore une fois le pass rush des Saints va devoir être là parce que si tu laisses Tom Brady bosser avec toute cette escouade là, avec un Antonio Brown qui vient s'ajouter, alors il sera peut-être pas phénoménal pour le premier match, mais je crois que l'an dernier, sur son premier match avec les Patriots, parce qu'il n'en joue qu'un d'ailleurs, je crois, il capte un touchdown direct. Hein.
Oui, donc, ça va être une cible cherchée dans la end zone de toute façon. Et t'as déjà des mecs comme Gronkowski, comme Mike Evans.
Et d'ailleurs, les Saints ne sont pas hyper à l'aise en défense dans la end zone, c'est-à-dire qu'ils prennent peu de yards, mais ils prennent plus de points en proportion par rapport aux autres équipes. Dans la end zone, en effet, il y a du matos quoi, pour les Buccaneers. Même Mike Evans est immense, Gronkowski, on n'en parle pas. Donc. Les deux oppositions sont hyper intéressantes, hein, de toute façon, que ce soit n'importe quelle équipe qui ait le ballon, il y a des choses intéressantes à voir, c'est pour ça que c'est l'affiche de la semaine, on a deux équipes hyper bien classées qui jouent, et tu vois, les Seahawks sont en tête de la division, mais ces deux équipes-là sont quand même plus complètes sur le papier avec la défense. Hein.
Les Seahawks sont en tête de la division.
De la conférence, pardon.
Oui, c'est ça.
Autant pour
un bug. Attends, ils ont déménagé. Non, c'est bon.
Il y a tellement de niveaux dans le millefeuille en NFL que c'est à la fin.
Et attends, on dit Mike Evans, Antonio Brown, Rob Gronkowski. N'oubliez pas la capacité de Tom Brady sur les 1 yard à mettre un
évidemment.
Petit QB sneak. Ça, c'est sa spéciale. Il aime bien. Donc, effectivement, moi je vais spoiler du coup tout de suite mon prono. Je vais prendre les Buccaneers et pour un truc que t'as dit là juste sur la fin et qui, moi, me fait pencher la balance dans ce sens-là, c'est que les Saints encaissent beaucoup de points malgré le fait qu'ils en marquent, mais ils en encaissent, tu vois, 28, là où les Buccaneers c'est 20 en moyenne par match. Même si ça part dans les tours et que ça va sur une trentaine, au final je crois que la défense des Bucks est capable de mettre un plus gros frein à l'attaque des Saints, donc je vais les choisir.
Eh ben écoute, Buccaneers pour moi aussi, pour ce que tu viens de dire, les points, pour le fait qu'il y ait quand même moins d'inconnus du côté des Buccaneers en termes de blessures, en termes de pass rush.
De ballons volés aussi, hein. 14 ballons volés cette année hein, quand même par les Bucs.
Aussi, donc voilà, c'est plus pour le fait qu'il y ait moins d'inconnus aussi, encore une fois, parce que là les Saints ont des retours de blessures, ont des choses comme ça, et encore une fois ce pass rush, donc je vais dire les Buccaneers. Après, encore une fois, c'est de la division et les Saints ont gagné le premier. Donc, résultats qui m'étonneraient.
Mais je trouve que les dynamiques sont peut-être un peu plus favorables. La dynamique est plus favorable du côté des Buccaneers, puisque tu l'as dit, depuis les deux matchs de début de saison compliqués, ça déroule. Donc, bon. On est tous les deux d'accord pour prendre les Buccaneers et on va passer tout de suite à tous les pronos. It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night! And it's our division! It's our time to go win it! We're gonna start fast and finish strong! Yes, sir! And we're gonna work on three! One, two, three, work! Bon, j'ai limité la casse comme j'ai pu la semaine dernière, mais je suis obligé de céder la couronne de la semaine à Raphaël, qui peut remercier la défense des Chargers. 10 points donc pour Raphaël sur la semaine 8 des pronos, 9 points pour Camille et moi, 8 pour Alain et 7 pour Greg. C'est la révolte des mal classés, le bas du classement remonte, ne veut pas se laisser faire. Attention, attention.
T'as pas donné le général, je reste en haut quand même.
J'y arrive.
Tant que ça dure, j'y tiens.
Il essaye de gratter. Hein, bon. Alain est en tête à 83 points, évidemment. Raphaël revient au niveau de Greg à 80. Camille à 78 et je ferme la marche à 75. Mais attention, rien, évidemment, n'est joué. Tout est possible. Et puis de toute façon, en playoff, les points vaudront 5 ou 6. On verra.
Faut que je fasse gaffe. J'étais concentré sur Greg depuis des semaines. Et là, il y a Raphaël qui revient. Tu as l'air de... J'ai l'impression qu'on était dans une échappée à deux et tu vois qu'il était en chasse-patate et qu'il est revenu sur nous, quoi.
Ah ouais, c'est possible, vous êtes un peu regardé, personne n'ose trop attaquer, et finalement, hop là. Bon, du coup, les pronostics de toute cette semaine 9, ça commence par un match ce soir jeudi si vous nous écoutez, ou hier vendredi si vous nous écoutez. Packers à 5 victoires et 2 défaites chez les Niners à 4 victoires et 4 défaites. Quelle équipe des 49ers va-t-on voir, Alain Mattei ?
Oui, alors là, tu poses la question de manière littérale, parce que des fois, on le dit, un truc un peu poétique, est-ce que c'est les bons ou les mauvais Niners qui vont jouer parce qu'ils vont être forts ou pas ? Là, c'est vraiment qui va jouer.
C'est vraiment ça.
Parce que là, entre les blessures et la Covid, au moment où on se parle, c'est un peu la galère. Ils ont deux receveurs dans l'effectif actif au moment où on parle. Alors, ils vont en monter du practice squad pour le match, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais ils en ont quatre de mémoire. Ils ont trois ou quatre receveurs sur la liste Covid. Plus un qui a à la fois la double peine blessure et Covid, donc plus Trent Williams sur la liste Covid. Bon, je suis obligé de pronostiquer les Packers, tu vois, à partir de là. Franchement, dans des conditions normales, j'aurais dit qu'ils allaient attaquer les Packers au sol, comme tout le monde le fait.
Et ça aurait pu marcher, en plus. Voilà. Ça n'aurait pas été idiot.
Mais bon, après, ceci étant dit, Aaron Rodgers et ses Packers marchant un peu à l'affect, je pense qu'ils ont envie de se venger de la finale de conférence de l'an dernier. Oui. Donc ça plus les blessures, je vais pronostiquer sur les Packers.
Je vais aller sur les Packers aussi, vous verrez demain si on avait raison ou pas. Dimanche à 19h, Giants, une victoire 7 défaites chez la Washington Football Team à 2 victoires et 5 défaites. Vous connaissez les règles, alerte NFCS, ce n'est pas un exercice, asseyez-vous tranquillement, appelez vos proches, rassurez-les, tout va bien se passer. De toute façon, on ne pourra pas savoir ce qui se passe dans ce match, j'avoue que j'ai fait... Alors j'ai fait presque pile ou face, je me suis dit que la défense des Giants est peut-être meilleure.
Franchement, il y a quelques matchs comme ça qui sont très très durs à pronostiquer cette semaine parce que tu sais, c'est un peu des courses entre mecs en déambulateur, quoi. Je sais pas lequel. Tu sais, dans OSS 117, quand ils font la course en déambulateur, c'est ça, quoi.
Avec la perfusion là et qu'ils accrochent leur machin.
C'est angoissant à regarder ce truc. Pareil, les Giants parce que la défense est meilleure.
Ouais. Mais sinon, bon.
Je veux dire, t'es pas à l'abri que Daniel Jones perde 3 ballons, que Kyle Allen lui réponde en lui rendant 3 fois de suite le ballon. Ouais. Moi, je pense qu'à un moment, d'ailleurs, on devrait les mettre tous les deux sur le terrain et qu'ils se passent la balle l'un à l'autre directement. Tu vois.
Oui, attaque contre attaque, ça ira plus vite.
Ouais,
ça peut être rigolo. Giants. Oui, Giants pour moi aussi. Bears 5 victoires, 3 défaites chez les Titans, à 5 victoires et 2 défaites. Alors sur le papier, on dirait oui, les Titans bien sûr, mais les Bears sont un peu accrocheurs en ce moment. Les Titans ont l'air d'avoir quelques trous d'air, alors peut-être. Bon, je vais quand même parler des Titans, mais
oui, les Titans sont sortis de défaite parce qu'ils ont quand même perdu contre les Bengals la semaine dernière. Les Bears, de toute façon, sont en galère en attaque. Maintenant, c'est quand même plus ou moins acquis. Ceci étant dit, la défense des Titans a quand même du mal, notamment dans
et
les
voilà.
airs. C'est pour ça qu'ils ont recruté Desmond King. Donc oui, Allen Robinson pourrait avoir des opportunités. Je me mettrais presque le doute.
Mais en fait, il faut pas. Je pense que moi aussi, tu vois, je commençais tout à l'heure à me dire attends, mais en fait, il faut pas trop réfléchir à ce moment-là. Il y a les Bears, on ne vote pas pour les Bears. Voilà, moi, c'est ma règle.
Après, ils sont quand même à 5 ou 6 victoires déjà cette année. Donc...
Bah, 5-3, oui, mais c'est sûr des malentendus à chaque fois, ça m'énerve. Rétablissez la vérité.
Bon, je vais prendre, encore une fois, il faut se méfier de cette défense de Chicago, mais sur l'ensemble, les Titans sont quand même, ont quand même plus d'armes offensives pour leur mettre quelques points. Ça va peut-être pas se jouer à grand chose d'ailleurs. Hein. Mais ils ont de quoi. Ils gagnent pas, enfin ils perdent pas largement et ils gagnent pas largement les Bears de toute façon. Donc quand t'as une défense comme ça, ça sera toujours accroché. Je vais dire les Titans de peu.
Allez, moi je veux dire les Titans tout court. Lions, 3 victoires, 4 défaites chez les Vikings à 2 victoires et 5 défaites. On parlait de bonne défense, pas sûr qu'on soit sur le même thème. En l'occurrence, voilà, les Vikings, je connais pas leur défense, mais si celle des Packers craque face à l'attaque de Minnesota, j'ai peur pour Détroit.
Ouais, bon, après, on parlait de matchs difficiles à pronostiquer.
C'est pas le pire, je trouve.
Ah, je sais pas. Moi, après, le truc, c'est que Matt Stafford a le Covid au moment. Enfin, alors, il n'a pas le Covid, pardon. Il est sur la liste des cas contacts. Ouais, il a été cas contact. Donc, il faut qu'il fasse deux tests positifs pour être autorisé à revenir. On est jeudi, normalement, il a le temps. Je vais dire les Vikings parce que c'est plus solide et qu'ils peuvent faire courir Dalvin Cook. Mais franchement, hein, ça, c'est le genre de match où il y a une des deux équipes qui peut faire un nawak pendant une mi-temps, prendre 50 points de retard et jamais s'en remettre. Donc.
Ou à l'inverse, complètement revenir. Hein. c'est pas possible.
Je vais dire les Vikings parce que pas de jeu au sol pour les Lions, parce que voilà.
Ah, ça.
Mais je serais étonné de rien.
Vikings. Combien de matchs faut-il à toute l'attaque des Lions au sol pour faire autant que Dalvin Cook le match dernier?
Voilà. Sur le rythme, parce que je me rappelle avoir donné la stat mardi, sur le rythme de DeAndre Swift, c'est long, parce que je sais pas si tu te rappelles,
c'est 20 cm.
Voilà, il avait 6 courses pour 1 yard. Hein, donc,
et d'autant que, tu sais que j'ai revérifié depuis, il a fait une course de 5 yards.
Ah ouais, donc il a sacrément reculé sur
les autres. Ça veut dire sur les autres, il a fait que reculer. C'est de la folie. Non mais bon, c'est
non, mais alors, attends, incroyable. S'il te faut 6 courses pour faire 1 yard, pour faire les 165 de Dalvin Cook, c'est simple, hein, tu fais 6 fois 165, il lui faut 990 courses.
Voilà, merci. Vous pourrez vous la péter avec cette stat improbable made in TD Actu.
J'avais ma calculette dans la main, je précise, je ne l'ai pas fait de tête.
Bravo, t'aurais pu faire croire que ça marchait. Panthers 3, donc Vikings pour nous deux. Panthers 3 victoires, 5 défaites chez les Chiefs, à 7 victoires et 1 défaite. Ah ben alors, est-ce que Christian McCaffrey, à défaut d'apporter du suspense, peut apporter du spectacle à ce match si
ah bah
il
oui.
est de retour?
Ça oui, il apporte toujours du spectacle. Mais voilà. Le suspense, ce sera plus dur.
Voilà, bon, on est
ça,
pas
sera...
obligé.
Après, bon, le problème de Carolina, d'ailleurs, on parle beaucoup de l'attaque à cause de Matt Rhule, mais c'est peut-être les blessures en défense qui leur ont fait encore plus de mal, parce que ça se passait pas trop mal pour Yetur Grosmatos et quelques autres qui étaient bien lancés. Il y a eu quelques blessures qui ont perturbé le pass rush à partir du moment où ils sont quand même fins sur le papier. Bon, bah, ils se retrouvent un peu en galère. Donc là, ça va être dur de stopper les Chiefs, ça va être dur de suivre le rythme. Évidemment,
oui,
les Chiefs.
Évidemment, les Chiefs. Texans, une victoire, 6 défaites chez les Jaguars. Une victoire, 6 défaites. C'est le même bilan pour ces deux équipes. C'est un peu triste, je trouve, pour la division qu'on attendait un peu plus serrée, mais peut-être pas dans ce sens-là. Bon, ça, celui-là, pour le coup, c'est un match qui est dur à pronostiquer. Après, Houston a gagné les 5 derniers matchs. Les deux sortes de bye week.
Tu trouves qu'il est plus dur que le Vikings Lions? Moi, par exemple, je trouve qu'il va plus clairement Texan quand même, en termes de talent dans les effectifs.
En l'occurrence, il y a Jake Luton qui va être titulaire a priori pour les Jaguars. Oui, non, bien sûr que c'est en faveur des Texans, mais les Texans, ils ont tellement gâché d'occasions depuis le début de la saison que bon.
Ah non, moi je vais sur Texan facilement, encore une fois, parce que comme tu l'as dit, c'est Jake Luton en face. On ne sait pas vraiment ce qu'il vaut.
Oui, mais il peut y avoir des surprises aussi, tu vois.
Ouais, mais tu vois, si je dois parier dessus, entre Jake Luton et Deshaun Watson, a priori.
Ah bah oui, c'est sûr. non, mais d'accord. Non, mais de toute façon, je parlais Texan aussi. Mais ouais, je sais pas, je le trouvais sur le papier, en réfléchissant trop. Ce qui est peut-être le problème des pronos.
C'est peut-être ça, ouais.
Trop réfléchir, arrêtez de réfléchir. Voilà, sur le suivant, on va pas trop réfléchir. Ravens, 5 victoires, 2 défaites chez les Colts, à 5 victoires et 2 défaites. Autant Rivers qui met des camions de points face aux Lions, très bien. Autant Rivers face aux Ravens, bon, plus difficile. Maintenant, attention, parce que...
Ouais, j'allais dire, celui-là, il peut demander à réfléchir quand même. Hein. Les Colts ont une bonne défense sur la semaine dernière avec le retour de Darius Leonard. On l'a dit mardi, Lamar Jackson est quand même pas... incroyable cette année, il est en baisse dans ses catégories statistiques. Franchement, je vais mettre les Ravens parce que je pense que leur défense peut quand même provoquer des erreurs, notamment de Philip Rivers. Hein.
Oui.
Il a été très bon sur le dernier match parce qu'il n'est pas trop bousculé et qu'ils peuvent dérouler leur plan de jeu, mais là, il risque d'être plus bousculé.
Oui.
Donc, je vais dire les Ravens. Mais bon, sur le principe, attention, disons qu'en tout cas, si les Colts les secouent ou les battent, ce sera le moment de tirer la sonnette d'alarme pour les Ravens. Ce qu'on n'a pas fait dans l'émission précédente, mais ça pourrait être le moment où il faudra le faire.
J'avais réservé cette phrase pour le dernier match de la semaine. Vous verrez.
Ah.
Pour le coup. Donc Ravens pour moi aussi quand même. Seahawks 6 victoires, 1 défaite. Bills 6 victoires, 2 défaites. Est-ce que c'est le vrai test encore pour les Bills? Parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours le vrai test pour les Bills depuis le début de la saison.
Ben, tu vois, je trouve que les Patriots, c'était un test au sens où c'était un match de division et il était important pour prendre l'ascendant dans cette division après des années de lose. Autant celui-là, je trouve que les Seahawks sont quand même assez nettement au-dessus offensivement.
Oui,
clairement, je veux dire, on va pas faire un dessin après les 4 dernières semaines de Josh Allen, qui ne peut pas suivre. Et leur défense, qui était quand même une grosse force ces dernières années, étant moins affûtée cette année... Ça pourrait être un peu compliqué. Alors, encore une fois, la défense des Seahawks, en plus, pourrait récupérer Jamal Adams, qui s'entraîne désormais enfin à fond, et l'arrivée de Carlos Dunlap. Donc, ils sont pas fameux, donc ils pourraient prendre des camions de yards par les Bills, mais ils peuvent aussi quand même provoquer des erreurs ou réussir quelque chose avec Jamal Adams, et en même temps mettre des camions de points avec, avec Russell Wilson. Ouais. D'ailleurs, l'opposition Tre'Davious White, DK Metcalf, ça va valoir son pesant de cacahuètes.
Oh oui.
Je vais dire les Seahawks parce que je pense encore une fois qu'ils peuvent aller trop vite pour Buffalo.
Moi, de toute façon, je ne pronostiquerai pas contre les Seahawks cette année, je pense, mais je me souviens quand même que les Bills ont posé des problèmes à quelques grosses équipes. Donc j'espère que ce sera un match serré quand même et que.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Josh Allen va retrouver un peu de sa superbe. Broncos, 3 victoires, 4 défaites chez les Falcons, à 2 victoires et 6 défaites. Est-ce qu'on doit continuer de croire aux Falcons? Ou alors est-ce qu'on doit un peu mieux estimer les Broncos? Tant de questions difficiles à répondre sur ce match.
Ni l'un ni l'autre.
Ouais, je sais pas bien pour le coup.
Alors croire aux Falcons, non. Et les Broncos, ils sont, on l'a dit, dans une sorte de saison de transition avec un Drew Lock qui est quand même très 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 aléatoire. Celui-là, pour moi, il a un enfer à pronostiquer. Hein. C'est clairement le match pile ou face. Denver a montré des bonnes choses, ils gagnent hein, avec Drew Lock, ils arrivent à s'en sortir d'une. C'est l'anti-Chargers hein, quasiment, c'est-à-dire qu'ils font n'importe quoi pendant 56 minutes et ils arrivent à s'en sortir à la fin. Je vais dire les Falcons parce que Matt Ryan, Julio Jones.
Tu sais que je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas plus intelligent de mettre les Broncos dans la mesure où, comme Greg est devant, au moins il me prendra pas de points là-dessus.
Ah oui, c'est vrai que normalement c'est celui qui est en tête qui pronostique le premier, mais au moins avec Greg on va savoir. Donc c'est vrai que je peux pronostiquer Broncos si je veux pas perdre un point assurément.
Bah oui, c'est ça.
C'est pas bête ça.
Bah, j'en suis vraiment à ce genre de calcul hein, parce que honnêtement je sais pas qui va gagner donc non et ouais tu vois moi, je me dis je vais prendre les Falcons et puis j'espère que ça me fera prendre un point sur Greg quoi.
Ouais moi je prends les Falcons aussi sur la encore une fois sur la base de Julio
ouais,
Jones.
Ouais normalement ils sont plus forts faut pas exagérer.
Bon, c'est compliqué à pronostiquer ça quand même.
Ouais, ouais, on est d'accord. Dimanche à 22h05, Raiders 4 victoires, 3 défaites. Chez les Chargers à 2 victoires et 5 défaites. Il va falloir que la défense de Los Angeles tienne tout le match, cette fois-ci pas seulement une mi-temps. Parce que l'attaque des Raiders, il y a du matos, il y a de quoi faire avancer le ballon. Est-ce qu'on peut voir un match à plein de points, Alain?
Oui. Oui, parce que c'est plutôt deux équipes offensives et bien offensives. J'allais dire un choc californien, mais c'est plus le cas, puisque les Raiders sont à Las Vegas.
Un choc du sud-ouest, quoi.
C'est ça. C'est vrai qu'ils sont pas mal déménagés tous les deux, parce que les Chargers sont plus à San Diego non plus.
Il y a quelques années, c'était San Diego, Oakland. Cette année, c'est Los Angeles, Las Vegas. Tout va vite dans le football.
Mais en tout cas, c'est un match qui me plaît à regarder. Je suis en train de regarder les autres affiches de 22h. Tu vois, t'as Cardinals, Dolphins, Cowboys, Steelers. À choisir, je regarde le Chargers, Raiders, parce que t'as Justin Herbert. On l'a dit, cette attaque des Raiders qui a une identité, qui a un Josh Jacobs moi, que j'adore voir jouer. Ils ont aussi Henry Ruggs, il y a quand même des mecs qui se débrouillent bien. Il n'est pas facile à pronostiquer celui-là. Je vais dire les Raiders parce que je les ai annoncés en playoff au début de l'année, qu'ils ont un meilleur coach dans ce match.
Il faut tenir la hype.
Je ne sais même pas s'ils ont le meilleur quarterback, tu vois.
Ah, c'est une bonne question, effectivement. Bah, ils ont le plus expérimenté, ça fait pas de doute, mais est-ce que c'est le meilleur aujourd'hui sur le papier? Je suis content que tu poses la question. Je vais prendre les Chargers, parce que j'ai dit que cette année, je prenais les Chargers à chaque match, mais...
pour ça que t'as 5 points de retard sur nous.
Exactement. Bah oui, 5 défaites. mais en fait, ça m'énerve de regarder les matchs des Chargers en me disant je veux qu'ils perdent parce que je les ai pas pronostiqués. Au moins comme ça je suis soit très content soit très énervé.
Ok. Bon,
je suis plutôt très cohérent. Énervé.
Ouais.
Oui, je me suis dit je teste une anti-Greg une année, on va voir si ça marche. Sauf que le problème c'est que j'aurais mieux fait de pronostiquer comme Greg l'inverse des Chargers. Bon, je prends les Chargers et toi les Raiders, très bien. En tout cas ce sera un match, tu l'as dit, très sympa. On est a priori. Alors que le suivant, Steelers à 7-0 chez les Cowboys à 2-6. J'ai marqué aïe aïe aïe. Voilà.
Bah ouais, sur le papier là, il fait mal. Ils en sont à choisir entre Cooper Rush et un autre quarterback dont le nom m'échappe du côté de Dallas.
Ils n'ont pas fait venir puisque les Texans qu'on fait venir.
Donc Ben DiNucci est mis sur le banc et ça se joue entre Cooper Rush et j'ai un trou. Je ne sais plus comment il s'appelle le deuxième de Dallas. Mince.
Attends, je peux aller regarder si tu veux.
Tu ne l'as pas. Alors tu ne l'as pas. Non, c'est Cooper Rush et Garrett Gilbert. Voilà, c'est Garrett Gilbert qui m'échappait.
Ça me dit quelque chose. Ils ont déjà joué en NFL ces mecs-là.
Oui, non, Gilbert est passé par les Browns, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, bon, c'est pas. C'est pas dingue. Andy Dalton, je crois, a eu une liste Covid qui s'est rajoutée. Garrett Gilbert, tu vois, il a un beau parcours parce que du coup, je voulais vérifier, il est bien passé par les Browns en 2019-2000, mais il est pas tout jeune, hein, il a 29 piges. Il est passé par les Rams dès 2014. Ensuite, il est passé par les Patriots, les Lions, les Oakland Raiders, les Carolina Panthers, les Orlando Apollos. Et ensuite, il est.
C'est de la XFL, ça.
Je reconnais. Plus. C'est de la XFL, les Orlando Apollos.
Je sais pas, il faudra demander à Victor Rouillet qui est notre.
L'American Alliance of Football, l'Alliance of American Football, l'AF.
La AF.
Gilbert Cooper Rush, c'est pas folichon. Et pour affronter la défense des Steelers, c'est inutile de te dire que c'est quand même très, très, très compliqué.
Mais heureusement, à l'inverse. Ah non, pas du tout. Les Steelers vont rouler sur la défense des Cowboys.
celui-là, c'est exploit puissance 1000. Hein,
Je pense que
c'est un des exploits de l'année. Hein,
Jerry Jones finit torse nu sur le terrain.
Mac McCarthy reste pour
10 ans.
D'autant que leur ligne a souffert quand même cette saison. La ligne offensive n'est plus tout à fait ce qu'elle était du côté de Dallas. Il y a des absents, il y a des blessés. Face à ce pass rush des Steelers, ce qui est quand même hallucinant. Bon, là, a priori, il n'y a pas match, quoi. Donc, Steelers.
Mike McCarthy n'a jamais gagné en 3 matchs face aux Steelers quand il était du côté de Green Bay. Donc, voilà, une petite stat à savoir.
T'en oublies, hein, parce qu'il a gagné un Super Bowl contre eux.
Alors, oui.
Saison régulière, tu veux dire.
J'allais dire oui, en saison régulière, bien sûr, puisque les statistiques au football américain, vous le savez,
oui, c'est la saison régulière.
Uniquement en saison régulière. Le reste n'existe pas, ce qui est complètement absurde. Alors.
C'est vrai qu'il faut le préciser pour certains de nos auditeurs qui découvrent peut-être. C'est vrai que souvent on dit il a tant de touchdowns en carrière, etc. C'est vrai qu'il faut savoir que ça prend jamais en compte les playoffs.
Si c'est pas précisé, c'est toujours que saison régulière.
Ouais, après, c'est pour juger sur un pied d'égalité rapporté au nombre de matchs plus ou moins de nombre de saisons de jouer, parce que des mecs qui n'ont pas joué les playoffs ou qui jouent dans des équipes pourries, forcément ils en ont moins, quoi.
Parce que Dan Marino, il n'en a pas beaucoup des stats en playoffs.
Il a joué un Super Bowl quand même. Je dis une nannerie. Oui, il a joué un Super Bowl.
Non, il a joué un Super Bowl. Je te dis ça d'une manière sûre, mais
oui,
ça
oui, non, le, crois,
parce ouais. que l'inverse me choquerait. Du coup, on a passé beaucoup de temps sur cette affiche qui avait l'air
accessible. C'est pas grave.
C'est bien.
Fait
ça,
de la pédagogie.
Mais comme ça, les fans des Steelers et des Cowboys ne nous en voudront pas. On les embrasse. Dolphins, 4 victoires, 3 défaites. Chez les Cardinals, à 5 victoires, 2 défaites. D'ailleurs, c'est deux matchs, hein, Steelers-Cowboys et Dolphins-Cardinals, c'est 22h25. Donc, Dolphins chez les Cardinals. Est-ce que c'est un peu tôt pour Tagovailoa d'affronter cette équipe des Cardinals?
Bon, il faut bien, hein. Il a joué les Rams. Oui, les Cardinals, c'est peut-être un peu plus fort en ce moment.
C'est sympa, en tout cas, l'affiche entre ces deux jeunes quarterbacks. C'est peut-être,
Après,
le futur de la NFL.
Après, tu vois, en termes de défense, il va pas se coltiner à Aaron Donald. Alors, il n'y avait pas de Jalen Ramsey la semaine dernière parce qu'il était malade, mais tu vois l'idée. Je ne suis pas sûr que la défense des Cardinals soit beaucoup plus féroce que celle des Rams, même s'il y a eu des bonnes choses cette année. Mais il manque Chandler Jones, son pass rusher principal. Donc, il va continuer. Après, on en a parlé mardi. Il faut qu'ils construisent petit à petit. Là, ils ont essayé, on l'a vu avec l'échange à la trade deadline, de rajouter un coureur. Il faut l'entourer, il faut blinder au sol. Donc, je pense que ça va encore être le mot d'ordre. En plus, il a des cibles correctes, hein, Devante Parker et quelques autres. C'est pas dépeuplé à Miami au niveau des cibles.
Gaskin n'est pas sur liste Covid, tu me disais juste avant.
Mike Gaskin, vient de tomber sur la liste Covid, en effet, juste avant qu'on enregistre.
Ça, pour les Dolphins.
Je te dis une bêtise, c'est encore pire, il est tombé sur la liste des blessés. Donc, il est absent pour 3 matchs.
Bon, c'est casse-pied, mais heureusement, il y a l'ajout de Washington qui est arrivé au bon moment, disons. Je trouve ça assez glamour comme affiche. Deux équipes qui ont plus ou moins entamé ou fini une reconstruction et qui peuvent, pour les prochaines années, être sympas à regarder. Les Dolphins, on en a beaucoup parlé depuis deux émissions. Il y a une grosse défense, il y a des bonnes équipes spéciales. Objectif pour Jason Sanders, le kicker, continuer sur son 100% au pied. Je vais prendre les Cardinals quand même, qui m'ont l'air plus complets, mais j'espère que ce sera un match.
Je vais dire les Cardinals aussi sur la foi du match précédent des Dolphins où c'était un peu court pour Tagovailoa. Donc s'ils reproduisent quelque chose comme ça, il y a plus. enfin, peut y avoir plus de points quand même du côté Cardinals. Donc je dirais Cardinals aussi.
L'affiche de la semaine, le Sunday Night Football entre les Saints à 5 victoires et 2 défaites et les Buccaneers à 6 victoires et 2 défaites dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin. On en a parlé, on pronostique tous les deux les Buccaneers, si vous n'aviez pas entendu retourner au début de l'émission. Et enfin, la non-affiche de la semaine entre les Patriots à 2 victoires et 5 défaites et les Jets à 0 victoire et 8 défaites. Ça, c'est le Monday Night Football dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, je sais même plus sur quel match, si là, ils perdent, il y a sonnette d'alarme. Si les Patriots perdent...
Ah oui, là, celui-là, oui.
Alors là, c'est incroyable, parce que là, il y a tout qui s'aligne. Il y a les Patriots qui sont déjà pas trop dans leur forme optimale, les Jets qui sont au fond du trou, qui gagnent, Adam Gase qui est le sauveur de l'humanité, Sam Darnold, MVP, enfin, ça peut être incroyable. Ça n'arrivera pas, je pense.
Ce serait étrange.
Mais ce serait fou.
Ce serait étrange. C'est dur à imaginer, tant les Jets sont d'une pauvreté quand même assez abyssale cette saison. Des deux côtés du ballon, ils ont fini de lessiver l'effectif en envoyant Avery Williamson ailleurs juste après le match. C'était McClendon qui était parti juste après le match. Mais voilà, donc McClendon, Williamson, tout le monde est parti. Bon, le GM a dit que Sam Darnold était un quarterback de talent du futur, que tout n'était pas la faute d'Adam Gase et tout ça.
Donc, et qu'Adam Gase faisait partie des plans.
Ah. Voilà, il fait partie de la solution, il paraît. Après, je pense que peut-être que c'est une sorte de finesse de langage, parce que tu peux dire, il fait partie de la solution.
Ah bah oui.
Si la solution, c'est de le virer.
Oui, il fait partie du fait d'être viré, c'est vrai.
Voilà, la solution, c'est de virer Adam Gase, donc il en fait partie de la solution. Tu vois, c'est
là,
fin.
C'est terrible.
C'est fin. En fait, Joe Douglas, il a un coup d'avance sur nous, tu vois, il est malin.
Les jeunes diraient qu'il est dans le turfu, hein, parce que
écoute,
là.
Alors, si tu veux qu'on parle de jeunes, je vais te dire que j'espère qu'il est dans le turfu, sinon il est claqué au sol, wesh.
Tu vois, aujourd'hui, il a R, hein, franchement. T'as... Oh là là,
ça se voit trop chez Jones.
Ouais, mes petits frères seraient fiers de moi. Voilà.
Ça doit être ça, j'ai pas de petits frères.
Moi, je les vois pas
petite
beaucoup,
sœur et j'ai pas d'enfant, donc c'est ça. J'apprends pas à parler de Jones, tu vois, je me sens largué quand j'entends des claquer au sol et tout ça. Bon.
Heureusement, je les entends pas trop. on va quand même prendre
non, mais en vrai, je lis cette expression partout sur Twitter, je te jure.
Ah ouais, c'est un frère aussi, tu le lis partout.
Non, mais tu vois, genre, si je dis ça, j'ai l'impression d'avoir 80 ans, je me sens pas à l'aise.
Non, on en est loin, rassure-toi. Bon, donc les Patriots, hein. On va pas.
Les Patriots.
Voilà. Là, voilà, pareil, on apprend à meubler quand il y a des affiches qui sont pas aussi incroyables que ce qu'elles pourraient y paraître. Au repos cette semaine, les Bengals, les Browns, les Rams et les Eagles. On les embrasse. Profitez-en bien et on passe tout de suite à toutes vos questions. Toujours le meilleur générique de l'histoire de la télé. Première question de Fidel Gastro. Salut la team, Tua Tagovailoa est actuellement le seul QB gaucher de la ligue. Quelles implications cela a-t-il sur sa propre O-line? Est-ce qu'on inverse les tackles? Et sur la D-line adverse, est-ce qu'on inverse les tackles aussi? Eh bien, je ne sais pas. Alain, le sais-tu?
On n'inverse pas les tackles, mais c'est juste que du coup, le tackle droit devient tout d'un coup plus important. Alors, je ne sais pas s'il sera mieux payé du côté de Miami, mais non, en général, on ne les inverse pas, hein, parce que bon, pour des questions techniques et d'habitude, ils sont à leur place. Après, pour ce qui est des alignements défensifs, ça appartient au coordinateur offensif et à la défense adverse de savoir s'ils veulent s'ajuster ou pas.
Ça peut être une stratégie, du coup.
Oui, après, ça dépend. Il y a des pass rushers qui ont leurs habitudes d'un côté ou pas. Bon, c'est assez personnel, mais. En général, alors après encore une fois, c'est un cas qui se présente peu, mais en général, on n'inverse pas les tackles de la ligne offensive. J'espère que je dis pas une énorme bêtise, mais encore une fois, c'est surtout qu'on va être plus attentif au moment de recruter le tackle droit.
C'est un cas qui se présente peu, voire pas, parce que je crois qu'aujourd'hui c'est le seul, et puis il n'y a pas dû y en avoir des masses.
Alors c'est le seul actuellement, et alors j'avais regardé l'autre fois, et je suis désolé, je ne l'ai pas sous les yeux, mais il y a Kellen Moore qui a dû être peut-être un des derniers à lancer en match officiel gaucher. Tim Tebow était gaucher.
Je lisais que Young aussi était gaucher.
Oui, Steve Young, Michael Vick aussi. Donc il y en a eu quelques-uns, mais il y en a en effet très très peu de quarterback gaucher en NFL.
Après, il y a un échantillon assez faible entre guillemets parce qu'il y a que 32 équipes. Je serais curieux de savoir si en NCAA il y en a beaucoup plus proportionnellement vu qu'il y a beaucoup plus d'équipes. Est-ce que éventuellement, parce qu'il y en a pas beaucoup non plus en NCAA.
C'est une bonne question. Donc après vérification, on est d'accord. Hein, Kellen Moore était bien le dernier, Tim Tebow aussi. Il y avait Matt Leinart, c'est vrai, tiens, au Cardinals en 2006-2013, sur les tout débuts du site. Je me rappelle, il avait été drafté au premier tour, Matt Leinart. Mais après, oui, c'est très 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 rare. Donc après, tu remontes à Chris Sims, Michael Vick, dans les notables, Marc Brunel dans les années 90-2000 avec les, comment dire, avec les Jaguars notamment. Voilà, mais oui, c'est très très rare. Et après, si tu regardes ceux qui étaient, alors Hall of Famer, c'est simple, il y a que Steve Young et Ken Stabler qui étaient quarterback des Raiders. Il y en a que deux. C'est bon. Dingue.
Bah voilà, c'est... l'objectif est fixé pour Tagovailoa. C'est parce qu'a priori, dans ceux que tu as nommés, il n'y en aura pas d'autres. Hein.
Non,
oh, Michael Vick, il fera.
Non, je ne suis pas sûr quand même. C'est un peu léger pour le Hall of Fame. Mais je suis en train de regarder, parce qu'il y a une page Wikipédia sur donc,
les quarterbacks gauchers.
Et alors, je ne sais pas si la liste est vraiment exhaustive, mais là, tu vois, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je ne sais pas, il doit y en avoir une vingtaine.
Bah, toute l'histoire de la NFL.
Bah écoute, ça remonte à 42 quoi. Donc tu dois en avoir 20-25 quoi.
Ah, c'est ouais, c'est moins d'1%. Hein.
Et ce qui est délirant, c'est que encore une fois, il y a 10% à peu près de la population mondiale qui est gauchère.
Même 15, je lisais tout à l'heure.
Mais bah, voilà, donc et t'es à 1% quoi.
Même moins. Hein. Si en NFL 20, quoi. Si tu me dis 20 en 80 ans.
Ouais. Alors selon la page Wikipédia, 0,85% en 2017. De lanceurs NFL gaucher.
Ok, bon, et eh ben voilà. Donc il y a quelque chose à faire, amis gauchers, lancez-vous, vous serez peut-être sur cette future page Wikipédia un jour.
On va faire un buzz, Raphaël Nadal peut-il jouer en NFL?
Ouais. Question de Dirty Fighter, si on devait retourner au jour de la draft 2020 en tenant compte des performances depuis le début de la saison, est-ce que vous prendriez Burrow ou Herbert?
Burrow.
Bah je vais être obligé de dire Herbert.
Burrow, rien que pour l'aisance dans la poche, moi qui me bluffe.
Et peut-être moins de fautes aussi que Herbert de ce qu'on voit depuis le début de la saison. Même si, rappelons-le, Burrow pour l'instant joue plus de matchs aussi.
Oui.
Question de Fat Mike. Coucou, j'ai du mal à comprendre le rôle d'un coordinateur offensif ou défensif quand le head coach fait lui-même les appels de jeu d'une de ses escouades. Et inversement, quel est le rôle du head coach concernant les squads dont il n'appelle pas les jeux? J'espère que la question est claire. Merci pour votre boulot, c'est un régal de vous retrouver chaque semaine. Merci à toi, Fat Mike.
Premièrement, j'espère que Fat Mike, c'est un hommage à NoFX.
Il y avait une photo de Ron Swanson de Parks and Recreation en image, donc je ne sais pas.
Bon. Non, mais après, on nous pose souvent la question, mais les coordinateurs et les coachs principaux et les rôles, ça varie quand même pas mal selon les équipes, puisque donc des fois, il y a des coordinateurs qui appellent directement. Je prends l'exemple, par exemple, des Chiefs. Eric Bieniemy, le coordinateur offensif, est directement dans le casque de
Patrick Mahomes.
Patrick Mahomes, merci. Après, il va y avoir des équipes où le coach transmet après que les coordinateurs lui aient transmis. Voilà, c'est assez variable. Il y a des coachs où des équipes pardon où le coach principal appelle lui-même directement les jeux voilà de certaines escouades. Matt Nagy, coach offensif, appelle les jeux offensifs. Adam Gase, génie offensif.
Adam Gase,
voilà.
Oui.
Adam Gase, génie offensif des Jets, appelle lui-même les jeux offensifs des Jets. Après, quand le coach n'a pas l'appel des jeux sur les deux escouades, en fait, il a une sorte de rôle de validateur aussi. C'est-à-dire qu'il est aussi là pour dire, il peut dire, moi ça me plaît pas, trouve-moi autre chose. Quoi.
Ouais.
Donc voilà, il a une sorte de rôle de. Bah, il a le final cut. Quoi.
Mais même quand il appelle les jeux offensifs et qu'il est coordinateur offensif, il y a toujours un assistant qui coach offensif. Quoi. Enfin,
oui, non, mais il y a toujours beaucoup de monde dans le cercle. Et après, oui, ils peuvent être plusieurs à s'entendre. Ils peuvent communiquer entre eux après. C'est-à-dire que avant celui qui va transmettre l'ordre au quarterback, par exemple, ils vont communiquer entre eux. Donc voilà, il y a une communication toujours ouverte.
Question de Jeff The One. Avec leur défense correcte et une attaque qui prend l'expérience à chaque match, Denver peut-elle être la team poil à gratter qui peut empêcher certaines teams d'aller en playoff, d'autant que leur calendrier peut leur correspondre puisqu'ils nous le rappellent, les Saints, les Dolphins et deux fois les Raiders. Et c'est une bonne question, effectivement. On disait tout à l'heure, il ne faut pas trop les surestimer, mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi contre eux.
Ouais, oui bah après, poil à gratter, moi je t'avoue que j'aurais un peu de... J'aurais du mal à les désigner comme poil à gratter parce que ça reste quand même une équipe assez faiblarde.
Juge de paix peut-être.
Et surtout, ouais, mais tu vois, il y a des équipes qui vont être plus embêtantes pour moi à jouer que tu vois. Je pense que les Chargers ont un peu plus d'armes par exemple pour embêter certaines équipes dans la course au playoff. Alors ils ont pas le coach, mais ils ont des armes. Voilà, tu vois, dans ceux qui vont pas se qualifier, je pense que ça m'embête plus de jouer les Vikings par exemple, qui sur un match peuvent faire complètement rien, mais qui sur un autre peuvent être super. Voilà, il y a des équipes comme ça qui m'embêteraient un peu plus à jouer. Après, les Broncos, comme toutes les équipes NFL, hein, de toute façon, il n'y a jamais de match facile. Ils ont quand même ils gagnent des matchs avec Drew Lock, donc oui, ils seront jamais faciles à prendre. Et après, sur les exemples cités, par contre, oui, ils peuvent embêter les Dolphins et les Raiders. dans la course au playoff.
Qui doivent jouer deux fois les Raiders.
C'est ça.
En plus, donc
eux, ils peuvent les embêter, clairement.
Les Saints, ça va être plus dur. Stéphane. Ah, alors, j'aime bien la question de Stéphane. Bonjour à Team TDA. Petite question, règlement. Désolé, il en faut aussi. Lors du field goal, la conversion suite à un touchdown, le ballon est censé passer entre les poteaux pour rapporter un point. Jusque-là, on est d'accord. Mais peut-il être lancé à la main entre les poteaux plutôt que frapper au pied? Il pose la question parce que le pourcentage de réussite est en baisse et que le ballon est à 25 yards, ce qui n'est donc pas si loin. Est-ce que ce serait possible?
J'ai jamais vérifié, mais je pense que non.
Je pense que non, et alors, en revanche, il pose aussi la question, est-ce qu'on peut faire un drop comme au rugby, c'est-à-dire en cours de jeu frapper le ballon pour le faire passer entre les poteaux et marquer 3 points pour le field goal, comme un field goal? En l'occurrence, on l'a déjà vu une fois, je crois, les Patriots, il me semble, avaient fait un truc comme ça. Mais au début des années Tom Brady, j'avais revu une vidéo il y a quelques années où, de mémoire, et c'est peut-être même Tom Brady qui avait tapé, ils avaient fait un drop, donc... Techniquement, c'était autorisé. Mais...
Tu parles de quoi de faire un drop, c'est-à-dire au milieu de l'action, tu prends le ballon, tu frappes et tu le mets entre les poteaux?
En ayant rebondi au sol avant, oui. Et ils n'avaient pas vraiment fait comme ça, en fait. C'est qu'ils
ouais,
étaient arrivés...
Ouais, je suis pas sûr, là.
Mais non, mais on va pas le faire maintenant parce qu'on enregistre. Mais je suis sûr qu'il y a une histoire que les Patriots avaient tapé un truc qui s'apparente à un drop à un moment.
Alors, je vais te dire, parce que je suis devant la page Wikipédia, le seul drop réussi en NFL depuis 1941, c'était par Doug Flutie avec les Patriots contre les Dolphins en janvier 2006 pour un extra point après un touchdown.
Et donc, en fait, c'était un extra point, mais alors quelle différence avec un extra point?
Eh ben, en fait, c'est juste qu'au lieu de frapper... en fait, je pense que tu peux le faire quand c'est dans une configuration field goal, c'est-à-dire équipe spéciale, le mec reçoit le ballon, sauf qu'au lieu d'avoir un mec qui lui tient, il le reçoit directement, il le frappe comme un drop.
Mais il le laisse quand même rebondir par terre d'abord, d'où l'intérêt, parce que ça doit être ça la règle, c'est qu'elle doit toucher, ça doit être comme au drop au rugby, il faut que la balle rebondisse sur le sol et que tu la tapes au rebond, mais
c'est
du coup t'as un mec qui te la tient et que ça touche le sol, donc ça compte. Ok, d'accord, ok, bon, bah alors effectivement pas le droit de le faire en cours de jeu, mais uniquement en unité spéciale. Merci Stéphane pour ces questions qui nous rappellent un peu les règlements de ce sport, parfois compliqué mais en fait très facile.
Et alors pour te dire, tu peux faire un drop pour le kick-off aussi, hein, par contre.
Ah oui.
C'est pour ça que
de le poser au sol, ouais, c'est pas bête.
C'est pour ça que je précise, mais oui, donc tu peux le faire, mais pas comme au rugby, pas pendant une action, tu vois. C'est pas genre
sur une passe ou
une passe.
Ça sera un fumble en fait. Ce sera un fumble si jamais.
Oui,
tu
oui,
fais
oui,
ça.
Oui, non, mais voilà, tu peux ça clairement. C'est vraiment juste si tu veux remplacer le fait d'avoir un holder, quoi.
Voilà, tu t'économises un salaire et une place dans l'effectif. C'est très
c'est
bien.
Ça.
Pas bête.
Il y a eu beaucoup de tentatives sur onside kick, hein, d'ailleurs.
C'est possible. Ah oui, parce que sur un sidekick, tu le maîtrises peut-être un peu mieux. Ouais. Jérém TDA qui nous demande, peut-on introniser officiellement Jared Goff comme le Alex Smith du pauvre? On ne trouvera pas mieux.
Oui.
Je crois qu'on l'a dit mardi, on est d'accord, on va mettre ça officiellement en place. Jared Goff est le Alex Smith du pauvre. À l'inverse, Grégoire qui nous demande, peut-on dire que Daniel Jones est le Jameis Winston du pauvre?
Je suis
un peu moins d'accord pour le coup.
Bah, et moi, à la limite, c'est le Jameis Winston du pauvre, au sens où les fumbles, c'est quand même moins drôle que les interceptions.
Ouais, c'est ça.
Donc, je préfère Jameis Winston pour ça.
Ouais, et puis en plus, Jameis Winston a quand même un meilleur apport offensif que Daniel Jones aujourd'hui, pour les deux équipes. Enfin, ouais,
j'ai toujours du mal avec la notion d'apport offensif quand le mec perd un ballon sur deux, mais ouais.
Non, mais voilà, c'est pour les deux équipes. Il est très généreux. C'est sans Jameis le généreux. Ouais. Elwen Fablette qui nous demande, à quand un livre Touchdown Actu sur la NFL comme trash talk sur le basket? Alain, je te laisse répondre, c'est toi le boss.
Probablement pas. Non, mais tu vois, autant je suis très admiratif de ce que fait Trash Talk sur les bouquins et je les salue parce qu'ils sont très sympas. Mais nous, je pense que pour nous c'est compliqué, rien que sur le fait que, évidemment, je sais que tous les gens qui lisent le site nous le proposent et nous disent qu'ils achèteraient, etc. Mais je pense qu'on n'a peut-être pas la masse critique pour le rentabiliser
on
autant que.
On a beaucoup moins d'audience
qu'un
que
sur
le basket. Voilà. On est d'accord que Trash Talk.
Faut rester réaliste là-dessus. Et puis derrière, il y a quand même des coûts. Il y a quand même des coûts et un temps de travail qui sont autres. Et pour être tout à fait franc, même encore une fois totalement transparent, c'est une question de préférence perso. Si j'ai plus de temps à mettre dans un truc, je crois que je préférerais faire plus de podcasts.
Oui.
C'est plus mon domaine. Donc voilà.
On n'est pas des écrivains, on est plutôt des blablateurs. Question de Géant Bleu, bonjour la team TDA, question pour tous les membres de la rédac, donc tous les membres de la rédac, n'hésitez pas à répondre. Quelle est pour vous votre équipe de la décennie depuis que TDA existe? C'est vrai qu'il y a deux semaines, Géant Bleu nous avait demandé l'équipe, je me souviens avec Raphaël, qu'on avait l'équipe qui avait le plus progressé, hein, l'inverse, c'est l'équipe qui avait le plus perdu, et du coup quelle serait l'équipe de la décennie en termes de régularité, de préférence, que ce soit personnelle ou autre. Donc voilà Alain, quelle est pour toi l'équipe équipes de la décennie.
Je suis en train de réfléchir. Le site existe depuis 2007.
Ouais.
C'était la saison parfaite des Patriots.
C'est quand même fait 2010-2020 quoi.
Bon, ouais,
2009-2019 comme ça.
Après, franchement, si tu, enfin, quelle que soit la période que tu prends sur le site, que tu commences à 2007 ou 2010, c'est quand même dur de dire autre chose que les Patriots, quoi.
Bah, j'allais te suivre là-dessus. Je pense que les Patriots, c'est incontournable.
Enfin, voilà, c'est quand même l'équipe, c'est l'équipe qui a été le plus présente au plus haut niveau. Et après, moi, je vais te dire, hein, dans le côté vie du site, je veux dire, on a aucune équipe qui fait plus vivre le site que les Patriots. Hein.
Et pourtant, on n'a pas le plus de membres de la rédaction qui sont fans des Patriots.
Ce que je veux dire, c'est que il y a le plus de supporters des Patriots en France qui nous suivent. Mm. Enfin, c'est une des équipes qui est le plus suivie, en tout cas, si je peux le dire comme ça. Donc, tout ce qui les concerne génère toujours le plus de réactions la plupart du temps. Donc, je veux dire, pour nous, c'est l'équipe incontournable. Quoi. Elle a rythmé la vie de la rédaction depuis 15 piges, quoi, quasiment.
Et s'il faut trouver l'équivalent NFC, est-ce qu'on peut dire les Packers qui ont toujours été un peu l'équipe que j'ai l'impression est très suivie aussi en France.
Oui, tu sais, sur les 10 dernières années, il y a eu le Super Bowl rapidement en 2010-2011. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était ça, parce que je m'embrouille toujours sur les années quand ça commence à faire loin. C'est mon cerveau qui
ça décale. Parce que c'est
Je crois que c'est 2010-2011 le Super Bowl des Packers, donc c'est au tout début. Après, ils ont quand même des fois tendance à être un peu décevants. On attend la fin. Est-ce que les Seahawks sont pas un peu plus, tu vois, on a quand même eu Russell Wilson qui arrive en 2012.
Ouais,
ils gagnent un Super Bowl, ils en jouent un autre. Ils sont quand même la plupart du temps au plus haut niveau. Moi, c'est une des premières, tu vois, qui me vient. Quand je pense NFC et site ces dernières années.
Mais est-ce qu'il y a une plus grosse fanbase en France de Seahawks que de Packers? Mais je suis pas sûr pour le coup.
Non, ça peut-être pas. Ça peut-être pas. Après les Saints aussi. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Alors eux pour le coup gagnent en 2008-9, mais derrière c'est une des équipes les plus présentes. Il y a eu le Bounty Gate en plus. On s'est amusé. Tu vois, j'avais même pas pensé à ça pour les Patriots, mais rien que pour les trucs Deflate Gate, machin Gate, tout ça Gate là. Attends, on en a mangé aussi. Hein.
Eh oui, mais en fait, il suffit de voir par rapport aux catégories qu'on a créées. Quand on écrit un article, on doit cocher à quelle catégorie ça correspond. Bah, il y a eu le Bounty Gate, typiquement.
Non, mais c'est pour ça que je dis on en a mangé, c'est pas péjoratif, mais il y a des trucs, il y a des catégories sur le site où, quand on en parle entre nous ou qu'on fait un article dessus, on se dit oh là là, on en a mangé de ce truc, quoi. C'est-à-dire que, genre, oh, encore un article sur le Bounty Gate, oh, encore un truc sur le Deflate Gate, et à la fin, on n'en peut plus parce qu'il y a un milliard de termes légaux à expliquer, de machin et d'audience et trucs. À la fin, ça, on n'en pouvait plus. Je suis content, on n'a pas eu vraiment une grosse affaire comme ça relou. Depuis un petit moment. Enfin, il y a eu Anthony Brown l'an dernier, mais c'était rigolo, quoi.
En dehors de la pandémie, tu veux dire?
Ouais, ça c'est
un autre problème.
J'avoue que quand j'ai créé la catégorie Covid-19 sur le site, j'étais pas super heureux. Mais...
Non, c'est sûr. Deux petites questions, enfin une petite question et une plus grosse pour finir. Alexandre 15 qui nous demande: salut l'équipe TDA. Remontons le temps, imaginons que les Bears sélectionnent Mahomes en 2017. Pensez-vous que les Bears auraient le succès des Chiefs actuellement? Et à contrario, que Trubisky aurait coulé les Chiefs? Merci pour votre contenu, vous êtes au top. Merci Alexandre. Les Chiefs avec Mahomes, les Bears avec Mahomes, pourquoi pas?
Ouais, mais la clé c'est pas ça, c'est Andy Reid.
Enfin,
attention, je dis la clé, mais c'est la clé. C'est-à-dire que évidemment, Mahomes c'est la grande porte en or massif et l'appartement gigantesque derrière. Hein. Mais la clé qui développe tout ça aussi, ça reste Andy Reid et ça reste aussi une année sur le banc.
Et là, je pourrais te dire que Matt Nagy, c'est quand même un descendant d'Andy Reid en termes d'arbre de coaching. Donc, bon,
ouais, enfin, est-ce qu'on parle de tous les descendants de Belichick sur les arbres de coaching?
À part Brian Flores, n'en parlons pas.
Tu vois, je pense que c'est pas du tout les mêmes conditions. Donc, je pense que les Bears auraient peut-être été un peu meilleurs, mais ça aurait été compliqué pour Patrick Mahomes. Je pense que les Chiefs auraient été beaucoup moins bons, mais que Trubisky aurait fait une meilleure carrière, évidemment, puisqu'il serait retrouvé avec Andy Reid.
Pour le coup, je te rejoins, mais je serais peut-être un peu moins fort que toi.
Il n'y a pas beaucoup de quarterbacks qui ont été mauvais sous Andy Reid.
Il n'y en a pas beaucoup. Non, mais oui, je, dans le fond, je suis d'accord avec toi.
On parle d'un mec qui a récupéré un choix du deuxième tour pour Kevin Kolb après l'avoir fait bien jouer. Hein, donc, Ah oui.
Et enfin, dernière question de la cage aux Foles, Nick Foles bien sûr. Et alors là, accroche-toi parce que un visiteur du futur vient te voir en tout début d'année et te donne 5 informations. Une seule est fausse. Tu dois me donner laquelle est fausse. Attention. Les Patriots sont à 2-5, les Bills et les Dolphins sont en vue des playoffs. Enfin, laquelle tu crois fausse, puisqu'en l'occurrence. 2. Une pandémie mondiale a coupé les frontières et tout le monde est confiné chez soi. 3. Antonio Brown a retrouvé du travail et va peut-être être hébergé par Tom Brady dans sa nouvelle ville de Tampa Bay. Donc là, tu ne sais pas non plus que Tom Brady est à Tampa Bay. Les Jets ont autant de victoires que les médailles de l'équipe de France au JO de Tokyo 2020, puisqu'il n'y a pas eu de JO de Tokyo. Et alors ça, c'est ma préférée, c'est pour ça que j'ai choisi cette question qui est un peu longue, je le sais, mais j'étais obligé. Raoul est premier dans les pronostics avec un pourcentage impressionnant de 95%, entaché malheureusement par sa proportion à choisir les Chargers. La rumeur dit même qu'ESPN l'appelle la nuit pour avoir ses pronos. Alors, les Patriots à 2-5, la pandémie mondiale, Antonio Brown et Tom Brady chez les Buccaneers, les Jets à 0 victoire et pas de JO, ou Raoul, le maître des pronos, à laquelle tu ne crois pas?
Alors, les Jets à 0, je peux y croire. Parce que n'importe quelle équipe NFL peut avoir des problèmes, des blessures, un problème de coach. Bon, ça, j'ai pas trop de mal à y croire. Les Pats à 2-5. Alors, attends, c'était... Ils seraient venus me voir en tout début d'année.
Ouais.
Donc... Ouais, au mois de janvier.
Au mois de janvier 2020, donc bon. Début, le 1er janvier 2020, on commençait un tout petit peu à entendre parler du Covid.
Voilà. Alors, ouais, et, mais, alors moi j'allais prendre la première, on savait que Brady était en fin de contrat. Donc je vais te dire, il me dit les pattes sont à 2-5, je me dis Brady s'est cassé. C'est improbable, mais pourquoi pas.
Donc, et les Bills et les Dolphins sont en plus sont en bonne voie pour aller en playoff.
Bon, ouais, les Bills parce qu'on pouvait. Ouais. Ça progressait bien. Antonio Brown a retrouvé du travail, il va peut-être être hébergé par Tom Brady dans sa vie. Bah, du coup, pourquoi pas? Parce que tout le monde donne des nouvelles chances à tout le monde. Donc...
J'aime pas comment ça se profile, tout ça.
Non, mais alors, tu vois, et... Ouais, putain, la pandémie mondiale...
Est-ce que c'est pas un euphémisme, d'ailleurs, pandémie mondiale?
Ouais, mais parce que, tu vois, en même temps...
Pas un euphémisme, un pléonasme, excusez-moi.
En même temps, on avait été plus ou moins... vaguement préparé, tu vois, je me rappelle quand j'étais étudiant, il y avait l'histoire de la grippe aviaire, après il y avait eu la grippe A, c'était quand Roselyne Bachelot avait commandé les 3 milliards de vaccins là.
Et elle avait pas commandé des masques aussi à l'époque?
Ah, je sais plus, ouais, mais,
si
mais
seulement on l'avait écouté.
Donc je me rappelle de ces trucs là où à chaque fois on avait plus ou moins peur que le truc arrive, mais il arrivait pas. Donc je sais pas si je le croirais, tu vois, si on me le disait là, je disais non, mais c'est encore un truc, on nous l'a dit, et puis non. Je sais pas. Du coup,
donc
c'est
tu vas être obligé de choisir la 5.
Non, mais c'est dur pour toi, du coup, je trouve la 5.
Ah, mais non, mais non, mais moi je trouve ça rigolo.
Après, 95% de bons pronos, clairement, pour n'importe qui, j'aurais. Enfin, t'as le feu sacré, quoi. Hein,
ah, bah c'est beaucoup de chance ou beaucoup de talent. Ou alors, comme dans Retour vers le futur, tu as été dans le futur.
Ouais, c'est ça, t'as l'almanach des sports.
T'as l'almanach des sports, quoi. Bon, moi, je vais être obligé de dire la 5 aussi, quand même. Parce que bon,
ouais, franchement, 5 ou 2, c'est proche. Parce qu'après, en même temps, en janvier, tu m'aurais dit on allait être enfermé pendant 3 mois ou 4 mois sur l'année.
On n'y aurait pas cru.
Je sais pas si je t'aurais cru tout de suite.
En tout cas, sur ces belles paroles, c'est la fin de ce podcast 375. Merci de nous avoir suivis. L'émission est évidemment disponible sur toutes les bonnes plateformes de streaming de podcast. Pour retrouver le site, c'est tdactu.com, @tdactu sur Twitter et sur Facebook, @touchdownactu en entier sur Instagram. On est aussi sur Twitter, @AlainMattei pour Alain, si vous voulez voir ses gifs de chat et suivre ses déboires avec l'administration française.
Eh non, attention, j'ai dit que le service public, c'était bien justement aujourd'hui.
Oui, avec les services clients de manière générale.
Ouais, j'ai dit que c'était SFR qui assurait pas.
Bien sûr. Et à Raoul VDG pour moi, toute l'actu, les chroniques, les résumés, le podcast, c'est sur le site touchdownactu.com, tdactu.com, les deux marches. Et pour nous soutenir, évidemment, c'est sur Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre tous ceux qui y sont déjà. Merci beaucoup, Alain.
Ben merci. Tiens, j'en profite. T'as dit @AlainMattei pour mon Twitter perso. N'hésitez pas à envoyer des idées de sujets pour le fauteuil. Je viens de réaliser que j'ai pas de thème cette semaine.
Oui, parce que dimanche à 18h, donc vous avez rendez-vous dans le fauteuil avec Alain pour toute l'heure qui précède les premiers matchs de 19h pour faire le point sur un peu l'actu, les blessés, les joueurs, les matchs, ce que vous voulez, vos questions et le sujet du jour. Donc n'hésitez pas à lui envoyer aussi si vous avez des idées. @AlainMattei.
On fera un comptage des voix de l'élection présidentielle, je crois, ce sera le sujet du jour.
Oui, bien sûr. Et puis, non, mais au pire, à mi-saison, tu peux toujours faire des trophées. Ah, remarque, on le fera peut-être mardi.
On va se le garder pour le jeudi prochain.
Allez, ah bah voilà, on vous spoil déjà. Jeudi prochain, ce sera les trophées de mi-saison de la rédaction, non, de ceux qui sont à l'antenne. Voilà, vous avez qu'à faire des podcasts. Merci beaucoup, Alain. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve donc à 18h dimanche dans le fauteuil, mardi prochain pour le débrief de tous les matchs de la semaine 9. Profitez-en bien. Des bisous. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ.
fameux pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Procash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vocal.